Vous écoutez IDFM, il est 21h.
Bienvenue sur IDFM Radio avec L'Onde Poétique, une émission de l'Ouvre-Boîte à Poèmes, l'association poétique et littéraire de la vallée de Montmorency.
Tous les dimanches soirs de 21h à 22h sur IDFM Radio, L'Onde Poétique vous propose une émission.
Dis-moi ta poésie, rencontre francophone, l'invitation au voyage et fragments poétiques.
Bonsoir, vous êtes bien dans l'émission L'Onde Poétique sur IDFM.98 ce dimanche soir à 21h. Nous sommes dans le Dis-moi ta poésie et ce soir ça va être un Dis-moi ta poésie particulier parce qu'on va y parler théâtre, je crois qu'on ne l'a pas encore fait. J'ai eu un coup de cœur formidable pour une pièce qui s'appelle Ourika, qui se joue actuellement tous les mardis à 19h au théâtre Darius Milhaud dans le 19e, à côté de la Porte de Pantin, métro Porte de Pantin d'ailleurs. Et ce texte est porté par deux femmes, une comédienne, Marie Plateau, qui est poignante, émouvante, enfin qui habite complètement le personnage et occupe cette scène pendant 1h15, on ne voit pas le temps passer. Et puis mis en scène par Elisabeth Tamari, qui est comédienne bien évidemment au départ, mais aussi metteuse en scène. Et nous l'avons avec nous. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir.
Bienvenue chez nous. Et nous avons également Alain Fichou. Alors Alain, quelle est ta place, toi, dans cette équipe de dames?
Oui, bonsoir. Alors déjà, moi je travaille dans l'association Mélane et depuis le temps que j'y travaille, il m'est venu à l'idée de vouloir un peu produire la pièce Ourika. Je voudrais commencer, moi, par remercier Radio Anguin de nous recevoir et de nous donner l'opportunité, l'occasion de parler à la fois de cette très belle pièce et de ce livre qui est très peu connu, malheureusement. Voilà, on espère que ça donnera à beaucoup d'auditeurs l'envie à la fois de venir, comme tu l'as dit, au théâtre Darius Milhaud dans le 19e arrondissement, et puis aussi de se procurer le livre de Claire de Duras.
Voilà, exactement. Et en plus, il est dans chez plein d'éditeurs, il est chez Hatier, il est chez Gallimard, il va être là, les textes, Claire de Duras, elle en a écrit quelques-uns, vont être assemblés.
Elle a écrit trois romans.
Trois romans. Et donc, ils vont être vers le 15 mars, justement, Elisabeth, quel éditeur?
Oui, ça va être republié, c'est Folio, qui Folio republie les romans de Claire de Duras, sous la direction de Marie-Bénédicte Dithelme, qui s'est déjà occupée d'une première édition de Folio classique, et c'est à l'occasion en fait du bicentenaire, puisque Ourika a été écrit dans les années 1820, publié une première fois en catimini en 1823 et republié alors pour le grand public en 1824.
Voilà.
Donc nous sommes en plein bicentenaire.
Oui, elle n'avait même pas cité son nom, je crois, en 1823. Elle avait publié sous un nom d'emprunt. Enfin, elle n'avait pas cité son nom. Et je crois que, si je ne me trompe pas non plus, c'est Chateaubriand qui l'entendait raconter l'histoire de Ourika, parce que c'est une histoire vraie, de cette petite fille née au Sénégal, juste avant la période de Révolution française, pendant que l'esclavage fait rage. Et sauvée, enfin si je puis dire, oui, sauvée in extremis du bateau négrier où elle allait certainement périr pendant la traversée, et donc achetée par le gouverneur du Sénégal qui la rapporte à Paris, chez sa tante, qui l'élève d'une manière comme sa fille, quoi, avec tous les talents de l'aristocratie du moment, peinture, etc. Mais ça, c'est une autre histoire.
C'est vrai que c'était une époque un peu particulière, puisqu'on ramenait une enfant, une adulte noire, comme on ramène un bibelot de
Venise, un perroquet,
de vacances.
Oui, voilà, hein, un coquillage, un perroquet.
Et donc là,
il y avait aussi beaucoup de petits garçons, de petits négligents. Et bien sûr, ça servait à la fois à la décoration, à la domesticité, bien entendu. Et on aurait pu imaginer que ça aurait pu devenir le destin d'Ourika. Et en fait, pas du tout. Son destin a été à la fois bien meilleur et beaucoup plus tragique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai vu dans les commentaires, là, dans les deux versions, il y a des versions soft où il ramène parce qu'il est bouleversé par les hurlements de cette petite fille. Donc ça, c'est très joli. Ça fait pleurer dans les chaumières. Et puis j'ai vu que dans la version Gallimard, c'est plus... quand même, effectivement, il l'a ramené comme un bibelot, quoi. Voilà. Mmh. Mais bon, effectivement, on va...
Il faut dire que Madame de Beauvau, chez qui va atterrir Ourika, est aussi la tante du gouverneur du Sénégal.
Voilà,
donc ça facilitait un peu l'affaire. Claire de Duras, c'est une grande aristocrate. Alors, il ne faut pas oublier que cette histoire est traversée par la Révolution.
Voilà,
et que la Révolution,
avec la terreur et tout ça.
La terreur va y laisser de grandes traces, hein, puisque il y a eu des matinées où place de la Concorde on guillotinait à tout va. Dans le livre d'ailleurs, on parle d'une jeune fille dont le fils de Madame de Beauvau est amoureux, Madame de Thémines. Et dans le livre, il est écrit qu'elle a perdu en une matinée
toute sa famille
voilà. Guillotinée.
Voilà, père, mère, frère,
voilà. Ça, tout...
Exactement, c'est quand même... cette petite personne va, elle aussi revient de loin et va, pour le plus grand malheur d'Ourika, atterrir dans les bras de ce Charles. Mais là, on dévoile un petit peu trop l'histoire. Mais en même temps, j'espère que, chères auditrices et auditeurs, ça vous fait envie en disant, mais alors, et la suite? Et bien, la suite, elle sera sur scène, tous les mardis à 19h au Théâtre Darius Milhaud. Alors moi, j'ai envie de savoir, merci Alain pour toutes ces informations, j'ai envie de savoir, Elisabeth et Marie la comédienne, comment vous est venue cette envie d'aller chercher ce texte, comment il vous est advenu dans les mains, puisque justement, comme on disait, le texte s'est un peu perdu dans les oubliettes, alors qu'en 1824, quand il est sorti, il a été, le mot n'existait pas, mais un best-seller, traduit dans plein de langues, puisqu'il a même fait pleurer Goethe. Ah oui, Goethe. Oui, mais chers auditrices, auditeurs, si vous venez, vous aurez des larmes parallèles au grand poète allemand. Et donc, comment vous est advenu cette envie, cette idée de mettre en mots pour le théâtre cette nouvelle de Madame de Duras?
Alors, je pense que c'est... Déjà, dire mettre en mots, en fait, c'est vraiment...
mettre en forme.
Je reprécise que, en fait, ce qui est le spectacle n'est composé que du texte de Madame de Duras.
C'est vraiment justement. Oui.
Le texte tel qu'il est écrit. C'est une nouvelle. Or, il se trouve que c'est une nouvelle que moi, je connaissais, que j'ai découverte à l'époque de mes études, c'est-à-dire il y a fort longtemps. Et j'avais gardé un souvenir très fort de cette histoire, de la beauté du texte et de la force dramatique qu'il contenait, et de ce destin absolument tragique de cet enfant noir ramené d'Afrique à l'époque de la Révolution et qui, élevé comme une aristocrate, découvre tout d'un coup qu'elle n'a aucun avenir parce qu'elle est noire et se laisse mourir dans un couvent. Et c'est vraiment un texte qui m'avait bouleversée quand j'avais lu. Et ça avait été publié à l'époque par les éditions des femmes. Ça devait être dans les années 70, en fait.
D'accord.
Et à cette époque, on était certains à connaître Ourika. Et puis c'est de nouveau retombé dans les oubliettes. Et beaucoup plus tard, quand je travaillais avec Marie, et elle cherchait des textes à interpréter. Et tout d'un coup... J'ai repensé à Ourika et je lui ai dit « Est-ce que tu as lu ce texte ?» Et je lui ai passé, elle l'a lu et le lendemain, elle m'a dit « Mais il faut absolument, je veux absolument interpréter ce texte. » Parce qu'elle y retrouvait quelque chose de son propre destin de comédienne métisse de notre époque, en fait.
Oui, et de femme, puisque Marie, elle est franco-tchadienne, elle est née au Tchad et elle est arrivée en France aussi toute petite. Évidemment, pas dans les mêmes conditions, mais elle a quelque chose de commun dans cette histoire.
Il y a un parallèle
quelque
de
chose
vie.
Et des sentiments intimes qu'elle retrouvait exprimés par la duchesse de Duras. Et c'est ça qui est tellement étonnant dans cette histoire, c'est que bon, au début, moi, je ne pensais pas faire la mise en scène, et Marie en a cherché, et puis finalement, j'ai dit, bon, ben, on va déjà faire une lecture, et puis on verra ce que ça donne. Donc, on a fait une lecture à la vieille grille, une lecture dans l'espace, et puis, disons que le retour a été tellement fervent, qu'on s'est dit, faut vraiment en faire un spectacle. On a fait une première version au Théâtre de Nesle en 2016. Et puis, depuis 2016, sont revenus dans l'actualité tous les problèmes de racisme, d'exclusion, de oui. communautarisme, etc.
Oui,
ce qui fait qu'on s'est dit qu'il fallait reprendre le travail en sous l'éclairage de la modernité.
Voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, quand notre comédienne arrive sur scène, elle est avec cette robe, je ne sais pas si on dit empire.
C'est une robe empire, oui.
C'est une
oui,
robe empire, c'est ça, avec la poitrine et le bustier qui s'arrête juste sous la poitrine. Et oui. puis, il y a cette méridienne, ce fauteuil allongé,
ce sofa, ce fauteuil récamier. Dans lequel on voit toutes ces héroïnes de l'époque dans les peintures officielles.
Voilà, de Ingres. Voilà. Et là, elle a un imperméable et un sac normal avec une bouteille d'eau, un portable, différentes petites choses de la comédienne.
Oui.
Elle a ses feuilles à la main, donc c'est vrai que ça, au départ, on se demande pourquoi elle a des feuilles normales imprimées. Et donc, c'est toutes les choses de modernité dont vous avez saupoudré le texte.
C'est plus que saupoudrer, c'est surtout partir de la modernité, c'est-à-dire d'une comédienne aujourd'hui qui retrouve quelque chose d'elle-même dans ce texte qui a deux siècles, et comment elle va à la rencontre, en fait, du texte en répétant, en venant sur le plateau avec le costume, mais comme si elle répétait, elle retrouvait, et petit à petit, l'époque, le personnage d'Ulrika, en fait, ressurgit, et on se projette à travers Marie, on se projette l'époque actuelle se retrouve dans cette époque du début du 19e siècle.
Ouais. Voilà. Moi, je voudrais rebondir, Elisabeth, sur un mot que tu viens de dire, et puis Marie-Steph aussi, c'est le mot modernité. Hein, parce qu'il s'agit effectivement d'un texte qui date de 1823, mais en même temps, il y a une modernité d'écriture, de pensée. C'est la première fois qu'une femme, une auteure, donne la parole à une jeune fille noire.
Et l'héroïne
de ce texte, c'est la jeune fille elle-même. Elle parle.
Et elle parle à la première personne.
À la première personne. Les deux autres livres de Claire de Duras, c'est pareil. Il y en a un qui traite de l'impuissance masculine, ce qui est très rare. Et il faut dire que ça fait 200 ans. Le troisième traite de l'inégalité sociale. Et on voit bien là que Claire de Duras est une femme très en avance sur son temps.
C'est-à-dire je pense que c'est toute cette génération du début du 19e siècle qui avait justement souffert de la révolution, enfin souffert, espéré dans la révolution, dans les lumières, et qui en avait vécu les contre-coups, et ça leur avait donné une lucidité très particulière. Et c'est très proche aussi de l'intelligence et de la lucidité d'un Benjamin Constant. Et c'est une période où il y avait Madame de Staël aussi avait cette lucidité, cette compréhension, ce regard sur le siècle. Et après, les choses se sont un peu étouffées. Il y a quelque chose qui s'est un peu étouffé dans les bons sentiments, dans l'exaltation romantique, etc. Bon, et on retrouve maintenant quelque chose de cette époque.
Oui, là, il y a une clairvoyance et une empathie dans le texte. Parce que Claire de Duras est franchement aristocrate, franchement blanche. Et, et cette, l'histoire qui l'avait bouleversée, de, qu'elle avait entendue de cette petite Ourika arrachée à son pays, enfin à l'esclavage, et à son pays à 2 ans, à l'âge de 2 ans, et cette éducation qu'elle a eue. Et alors, c'est amusant parce que Madame de B, en fait, c'est la maréchale, elle habitait, enfin, tout cela se passe à l'hôtel de Beauvau, qui est actuellement notre ministère, je crois, de l'Intérieur. Donc, c'est dans ce même lieu que Ourika a vécu ses 12 merveilleuses années avec, hélas, qui s'achève, comme dit, elle sort de l'enfance, elle perd son enfance. Oui. Et ça, on ne va pas tout dévoiler pour que les auditrices et auditeurs viennent.
Nous sommes allés au ministère de l'Intérieur sur les traces d'Ourika.
Ah, vous y êtes allés.
Il y en a quelques-unes. Bon, il faut dire, comme je dis souvent, que le ministère de l'Intérieur, c'est aussi la résidence de la police.
Oui.
Et la police et la littérature, ça fait pas toujours bon ménage. Mais l'ancien préfet était agrégé de littérature.
Ah. Hein,
et donc, on pensait pouvoir retrouver des traces avec lui, mais c'était plus celui-là qui était en place.
Dommage.
Oui. Et donc, le préfet de l'époque...
mais c'est pas le préfet, hein, c'est le ministre.
Ministre. Oui, on sentait qu'il était quand même plus policier que littéraire.
Oui.
Voilà. Un des seuls souvenirs, c'est vrai qu'il y a une plaque pour Ourika, mais...
Ah, il y a une plaque quand même, d'accord.
Un des seuls souvenirs que j'ai gardé, c'est le poulailler qui se trouve dans le jardin du ministère de l'Intérieur et dont les œufs, paraît-il, partent chaque matin à la présidence.
D'accord. Il a les œufs de l'ex-demeure de Ourika.
Revenir sur Claire de Duras un moment, parce que, comment dire, elle écrit ce livre sous la pression affectueuse de Chateaubriand, hein, dont elle était...
Au départ, ce n'est pas lui qui lui demande de l'écrire.
Non, ce n'est pas lui.
En fait, c'est elle qui l'écrit, parce qu'elle se retire, elle est... C'est 20 ans après, plus de 20 ans après la mort de la véritable Ourika. Et elle décide elle se retire pour écrire parce qu'elle souffre, elle a beaucoup de difficultés dans ses relations, et en particulier avec Chateaubriand, qui est en même temps son ami, qu'elle appelle son frère.
Et lui, donc elle est amoureuse.
Sa sœur, et en même temps, elle a une passion, peut-être cachée pour Chateaubriand. Elle écrit cette histoire. Elle reprend cette histoire d'Ourika, qu'elle transpose, parce que dans la réalité, les choses ne se sont peut-être pas déroulées comme dans le roman, mais elle montre le roman à Chateaubriand, et c'est lui qui lui dit, et à quelques amis, et qui lui disent tous, mais il faut absolument publier ce livre, c'est magnifique. Mmh. Et ça a fait un succès, mais énorme.
C'est incroyable, hein, à l'époque, on parlait, et donc elle a vraiment, elle a porté cette héroïne au nu, quoi. D'ailleurs, tu parlais de l'écriture tout à l'heure, c'est pas pour rien que le texte maintenant est ressorti et qu'il est proposé dans la liste des livres à étudier pour le bac français. Oui. Visiblement, les collégiens aussi, certains ont, dans les classes, l'ont étudié, puisqu'on voit que l'édition, notamment de chez Hatier, il y a marqué collégien en haut, pour classique, pour collège. Et donc, voilà. Et là, c'est le point d'orgue de cette pièce que vous avez créée, Marie et toi, et qui permet de par l'interprétation, bon, lire un texte, c'est magnifique, mais le voir vivant, puis surtout que vraiment Marie disparaît bien souvent dans Ourika, dans le personnage. Justement, je voulais qu'on écoute sa voix, puisqu'elle n'a pu être avec nous. Et donc, dans ta mise en scène, il y a quelques passages qui sont enregistrés, qui permettent donc cette voix off de nous situer certaines choses. Et donc, le passage qu'on va écouter, c'est au tout début où Marie, justement, prend la parole pour raconter son histoire. Enfin, c'est Ourika dans la voix de Marie. Et juste avant, en fait, on a l'intervention dite par un comédien qui s'appelle donc...
Gabriel Ledose.
Gabriel Ledose, qui a la voix exactement qu'il faut, et qui est donc médecin, qui se rend au couvent où s'est réfugié Ulrika et qui a une quinzaine d'années à ce moment-là. Et donc, il voit cette petite jeune fille prostrée et tout doucement, il lui parle et c'est lui qui va finir par arriver à ce que Ulrika prenne la parole, lui dise « Si vous voulez me guérir, oui, peut-être faudrait-il que vous me connaissiez. Je vais donc vous raconter mon histoire. » Et donc, effectivement, le fait qu'elle ait pu accoucher, si je puis dire, de toute son histoire sans retenue, le docteur venait la voir régulièrement, il va aussi venir à la fin, donc de nouveau en entendant sa voix à la fin, et ça a permis que ce texte existe, enfin c'est comme ça du moins, que Claire de Duras nous présente la chose. Donc, oui, pardon, donc écoutons Marie.
Je fus rapportée du Sénégal à l'âge de 2 ans par monsieur le chevalier de B, qui en était gouverneur. Il eut pitié de moi un jour qu'il voyait embarquer des esclaves sur un bâtiment négrier qui allait bientôt quitter le port. Ma mère était morte et on m'emportait dans le vaisseau malgré mes cris. Monsieur de B m'acheta. Et à son arrivée en France, il me donna à Madame la maréchale de B, sa tante, la personne la plus aimable de son temps et celle qui sut réunir aux qualités les plus élevées la bonté la plus touchante. Me sauver de l'esclavage, me choisir pour bienfaitrice, Madame de B, c'était me donner 2 fois la vie. Je fus ingrate envers la Providence en étant point heureuse.
Voilà, donc on vient d'avoir la voix de la comédienne. Et c'est vrai quand tu parlais d'actualité, Elisabeth, là vous avez choisi avec Marie de nous faire écouter Lily de Pierre Perret. C'est la version moderne peut-être d'Ulrika, enfin d'une certaine manière, en parallèle. Et quand vous avez, mis en place le texte donc pour le théâtre, l'adaptation, toutes les pointes de modernité dont tu parlais amènent vers ça. C'est vrai que, hélas, il y a une remontée du racisme en France avec les arrivées des migrants qui a été plus ou moins maltraité par les médias et du coup ça fait une remontée qui est assez insupportable. Et c'est vrai que c'était le moment ou jamais qu'arrive cette pièce, quoi. Là elle est vraiment... c'était le moment ou jamais, quoi. bravo. Bon, on va peut-être écouter Lily directement, comme ça nous fait un moment de ramener à nos jours notre chère Ulrika.
On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut 2 noirs pour 1 blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe crétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapée des sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour 2 sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Vous êtes bien sur IDFM.98, IDFM Radio, avec Elisabeth Tamari, avec Alain Fichou, avec Francky, à la technique, et Marie-Stéphane qui est donc en train de vous parler avec tout ce joli monde de Ourika. Il nous manque juste Marie Plateau, la comédienne, et c'est pas rien, qui porte ce texte avec une émotion pas contenue, justement. Je crois que Ourika l'envahit plus d'une fois dans son jeu, et pour le plus grand moment de c'est poignant, quoi. Voilà, on reste pas du tout, on n'en sort pas indemne de ce spectacle, mais pour la bonne cause, voilà. Et donc, Elisabeth, tu voulais nous dire d'autres choses à propos de Marie. Oui, c'est ça, j'aurais aimé le parcours, comment vous êtes rencontrées toutes les deux. Tu étais comédienne également, on n'a pas parlé non plus de ton circuit à toi.
Mon circuit, on ne va pas s'étendre dessus. Il est ancien surtout, j'ai commencé en 64. Donc,
si ça se voit pour le talent, mais ça ne se voit pas.
Non, mais alors, écoute, arrête. J'ai beaucoup joué. J'ai rencontré Marie à l'occasion d'un spectacle. On a joué ensemble et ensuite, il s'en est suivi une relation amicale. Il y a eu plusieurs spectacles, des tournées qu'on a fait ensemble. Et puis, quand Marie, à un certain moment, a voulu créer une association, elle était en recherche de quelqu'un pour lui, pour être président de l'association. Donc, il est arrivé un moment où j'ai proposé d'être présidente, mais ça faisait longtemps qu'on en parlait beaucoup ensemble, qu'elle me disait ce qu'elle faisait, que je suivais son activité, elle suivait la mienne, enfin on est resté toujours en relation. Et puis il y a eu la création de l'association Mélane. Ensuite, je suis devenue présidente de l'association. Et puis là, on organise des ateliers de lecture à voix haute.
Oui, voilà, je voulais vous parler
de deux.
Parler de ça.
Voilà.
Atelier à voix
et
haute.
Puis, voilà. Donc, et je continue à jouer de mon côté. Marie a eu toute une activité de comédienne aussi de son côté. Voilà.
Et vous cheminez comme ça depuis combien de temps, alors, toutes les deux?
Écoute, la première fois, je crois que c'était en 81 ou 82. J'ai connu Marie.
Vous connaissez
sur le... Je sais plus si c'est 81 ou 82.
Oui, vous connaissez sur le bout des doigts, sur le bout des cœurs, quoi. C'est pour ça, là. Il y a une complicité. J'aimerais être une petite souris quand tu l'aides à s'habiller, là. Je trouve ça très joli, vos manières de faire le... Une fois, j'avais entrouvert pour te demander quelque chose. C'est vraiment, vous êtes toutes à fagoter, enfin, habillées parce que la robe est magnifique. D'ailleurs, on n'a pas cité le nom de la personne qui a créé la robe et le décor.
C'est monsieur
Roberto
Rosello, voilà, qui a beaucoup travaillé pour le Cirque Grus, pour le Crazy Horse. Voilà, c'est quelqu'un de très connu dans le métier, hein, de même que la musique est de Renaud Spielmann.
Ça, oui, la musique qu'on va écouter, on l'a pas encore.
Et la voix off qu'on entend, c'est celle de Gabriel Ledose.
Voilà.
Hein, qui est aussi un grand comédien qui fait beaucoup de doublage.
Voilà.
Je voudrais profiter pour revenir sur deux notions qui me paraissent tout à fait importantes, qui ont été citées. C'est la notion de racisme. Parce que Claire de Duras, dans son livre, là, nous ramène à l'époque contemporaine. Et ce racisme-là, comme à chaque fois que nous vivons des temps plus ou moins incertains, avec l'inflation, la guerre de l'Ukraine, etc., le racisme devient plus évident, même s'il a existé de toute époque. On écoute Georges Duby et on s'aperçoit que en 1270, 1300, au-delà de la Loire, ce sont des étrangers et donc on ne les supporte pas. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est vrai, tout ce qui fait la différence, que ce soit les Noirs, les Juifs, les handicapés, les gros, etc., il y a du racisme absolument partout. Alors, c'est du racisme quotidien, banal. Hein, je prends le métro, je me fais agresser, insulter, etc. C'est du racisme plus lourd. Alors, on va dire, la personne cherche un logement, on le refuse. La personne cherche un boulot, il se fait rejeter. Et ça, c'est de toutes parts. Donc, c'est ce qui fait aussi la modernité du livre de Claire de Duras. Et le deuxième point, c'est le médecin. Oui. Hein, j'ai évoqué l'autre jour, le médecin, il est au début du texte, il est à la fin du texte, et il traverse l'histoire par sa présence, un peu comme le ferait aujourd'hui un psychanalyste.
Oui, c'est exactement hein. Ça.
Donc là aussi, on peut penser que Claire de Duras a une clairvoyance qui la projette directement dans notre siècle.
Oui, puis Claire de Duras, en fait, avec cet amour caché pour Chateaubriand, je pense, a eu l'écho de ça lui a fait écho l'amour de Ourika pour ce petit-fils, ce Charles avec qui elle a été élevée depuis l'enfance, qui effectivement l'adore et n'a aucun souci avec sa peau noire, sauf qu'effectivement,
c'est un frère en fait.
Il va se marier avec la belle Anaïs qui est blanche.
Qui est évidemment le. Qui est le double d'Ourika. C'est la petite blanche parfaite.
Voilà, et Ourika, en fait, ce qui va être encore plus violent pour elle, c'est qu'elle se réjouit du bonheur, parce qu'évidemment, il l'exalte complètement, et il est d'une violence rare quand il dit son amour pour cette Anaïs. Et elle est tellement bonne, cette Ourika, donc elle se réjouit du bonheur qui arrive à Charles. Mais quand l'enfant naît, quand elle voit tout le monde qui s'attendrit sur ce portrait, la mère et l'enfant, elle a une forme d'envie qui monte dans son ventre et c'est ce qu'elle dit à Dieu. Elle dit, mais Ourika aura donc souffert de tous les maux. Il faut en plus que je ressente l'envie, mais je ne veux pas. Enlevez-moi de la terre, je ne veux pas ce sentiment qu'elle ait. Sauf que là, c'est juste pas possible pour elle, quoi. C'est trop. Et je pense que là, on pourrait écouter justement une autre femme qui connaît ce que c'est que souffrir, une autre femme noire de grand talent, qui est Nina Simone. Et de la même manière qu'Ourika disait, ne me laissez pas être mal comprise, je ne suis pas jalouse, je ne suis pas envieuse, je suis juste malheureuse. Elle meurt d'amour finalement, ça aussi c'est très moderne, hein, mourir d'aimer. Et donc on pourrait écouter, parce que sa chanson, Nina Simone, c'est Don't let me be misunderstood, hein, ne me laissez pas être mal comprise.
Et en plus, Nina Simone avait un point commun avec Ourika, et c'est pour ça que je pensais à Nina Simone, en dehors de la beauté de sa voix et de ce qu'elle dit, c'est que elle a grandi en faisant des études de piano classique. Elle voulait être une pianiste classique. Et elle n'a pas pu, parce qu'elle était noire.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'elle a une éducation occidentalisée, raffinée. C'est une grande pianiste, en fait. Et elle n'a jamais pu être pianiste. Et elle en a toujours souffert.
Oui, comme danseuse étoile, comme cantatrice, elles ont réussi, Jesse Norman, elles ont réussi, mais une pour combien? Et là, je crois que dans les danseuses étoiles, là, il y en a une qui vient de... Mais quelle bataille elle a menée pour arriver à... C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, il faut être mis devant le fait accompli, et là, effectivement... Ourika, par ce texte et par la mise en scène que tu en as faite, l'interprétation de Marie, honnêtement, on se prend... Voilà, c'est pas triste, c'est juste un coup de poing qu'on se prend dans le ventre et en sortant et regardant ses mains, elle a honte en regardant ses mains noires, nous on a un peu honte en regardant nos mains blanches, quoi. Alors, on va écouter Nina Simone, qui va nous... Là, elle a la voix qui dit beaucoup de choses.
Baby, understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. More than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
Voilà, vous êtes bien sur IDFM.98, dimanche soir, l'émission de 21h de l'onde poétique, le Dis-moi ta poésie, avec donc Alain Fichou et la metteuse en scène de Ourika, qui est donc Elisabeth Tamari, et présente en hologramme Marie Plateau, la comédienne qui est Ourika sur scène, et bien qu'elle soit soi-disant, d'après la mise en scène, la comédienne qui répète, il y a des moments où on la voit plus du tout, la comédienne qui répète. On voit Ourika, et bien qu'on sache qu'elle est partie de ce monde bien plus jeune, la femme qui est devant nous est tellement poignante que c'est Ourika qu'on voit. Ça, c'est très réussi. Hein. Et je... Oui, pardon Alain, tu voulais dire quelque chose?
Non, on évoquait tout à l'heure les problèmes de racisme et la modernité du texte de Claire de Duras. C'est vrai qu'à un moment dans le texte, Claire de Duras écrit à propos d'Ourika « Je me sentais étrangère au genre humain, hein, totalement. »
À la race humaine.
À la race humaine.
Voilà.
Je me souviens, pendant que je donnais des cours d'alphabétisation, j'ai eu l'occasion de croiser un jeune gars qui est devenu danseur d'ailleurs au Moulin Rouge, mais il expliquait que il venait d'Afrique et en arrivant ici, il prenait le métro, il était terrifié par le noir, les lumières, le noir, les lumières, et du coup, il était complètement perdu en France et il pouvait plus retourner chez lui parce que chez lui, il marchait pieds nus et là, il était plus capable de le faire. Et donc, c'est un peu Ourika qui est complètement perdu que ce soit en France et elle peut plus retourner chez elle. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, ça me revenait de voir sur le bureau d'un ami un bracelet justement d'esclavage, hein, pour les pieds. On se dit que avec la sensibilité qui est la nôtre, en une semaine, on aurait les chevilles complètement déglinguées, quoi. C'est pas possible.
Oui, mais je pense que les leurs devaient être bien, bien sanglantes aussi. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que Ourika étant élevée, comme, d'ailleurs c'est ce que lui fait remarquer, puisque Marie Plateau sur scène, et bien sûr Marie Plateau, la comédienne, qui boit à sa bouteille d'eau et qui regarde son portable pour mettre un morceau de musique de YouTube, mais elle est aussi bien évidemment Ourika, mais elle est aussi Charles à un moment donné, quand il est si heureux de ce qu'il vit avec Anaïs, si vous saviez, Ourika, en crevant le cœur de cette pauvre petite, il lui confie toutes ces choses, et elle est aussi la marquise de, qui est l'amie de Madame de B. Et c'est elle qui vient pointer que c'est terrible ce que vous faites, Ourika, vous ne vous rendez pas compte, vous l'élevez comme une petite aristocrate, alors que ce n'est qu'une négresse, n'est-ce pas? Et donc, je l'aime tellement, vous lui faites un mal fou, parce qu'effectivement, bon, c'est dit d'une manière telle assez horrible, parce que malheureusement, Ourika est derrière un paravent en train de peindre, et elle se prend ça en plein cœur. Effectivement, elle ne peut pas épouser un blanc en France, à moins que ce soit un gars qu'on paye, enfin une espèce de chose horrible d'ailleurs qui révulse la pauvre Ourika quand elle entend ça, qu'il accepte d'avoir des enfants nègres, n'est-ce pas? Mais elle ne peut pas non plus retourner en Afrique, parce qu'érudite comme elle est, et voilà, elle sera perdue aussi, on la comprendra pas, donc c'est vrai que c'est ça. Elle est nulle part chez elle, elle est vraiment... Et c'est ce que disent souvent d'ailleurs les métisses, hein. Moi j'avais un ami qui était alors métis eurasien, et il disait « je suis trop jaune pour les blancs et trop blanc pour les jaunes ». On est entre deux mondes, et on est nulle part chez nous, et on est perdu. Et dans le cas d'Ourika, voilà, c'est ce que tu voulais souligner, c'est cette...
C'est-à-dire que Ourika, elle en meurt, tout simplement.
Voilà, elle en meurt, vas-y, je t'en prie.
Elle meurt de désespoir, elle a un amour absolu pour Charles. À partir du moment où elle le réalise, bon, elle n'a plus qu'une solution, c'est de se réfugier dans la religion. Et en fait, elle se laisse mourir au couvent.
Voilà.
Mais en fait, elle ne peut plus vivre, tout simplement. Voilà. C'est une vie impossible.
Voilà.
Rien ne pourra satisfaire son
corps. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, de quoi elle meurt, hein, sauf qu'elle meurt...
D'une dépression, c'est une sorte de dépression.
C'est une sorte de dépression, mourir, en fait. Absolument. Et ce que tu dis là, c'est aussi quelque chose qui traverse tout le texte, parce que Madame de Duras, c'est aussi une femme qui est dépressive. Hein.
Oui,
on comprend ça avec l'amour déçu qu'elle a pour Chateaubriand, la terreur au sens propre qui intervient au moment de la Révolution. Parce que
elle a quand même risqué sa vie.
Comme
toutes ces générations, ils ont vécu.
Comme Madame de B la risque aussi. Elle échappe à l'échafaud de peu. Voilà, c'est ça.
Et je pense que ça, c'est très important, parce que c'est une génération chez ces aristocrates, ces gens cultivés, qui risquaient vraiment leur jour. Tous les jours, enfin, qui ne savaient pas si le lendemain, on leur trancherait pas le cou. Enfin, c'est aussi cru que ça. Et je pense que ça leur a laissé une sensibilité très particulière. Et qu'on retrouve dans beaucoup d'écrits de cette période, du début du 19e siècle. Et c'est pour ça que c'est... Parce que, bon, il y a la véritable Ourika à qui c'est arrivé, mais ça, c'était avant. Claire de Duras écrit 20 ans plus tard. Et dans le spectacle, on voit aussi une femme que Marie endosse aussi à certains moments, qui est celle qui se débat avec la difficulté d'écrire, de dire et d'écrire ce qu'on a souffert.
Oui,
et
c'est
toutes
ça.
Les feuilles sont liées aussi à l'écriture.
Oui, bien sûr, parce que...
Il y a toute une série de strates, disons, et en même temps, il y a tout ce qui retentit dans sa tête. Et quand tu disais tout à l'heure, Charles ou elle est la marquise d'eux, je ne sais pas si on peut dire qu'elle ne les joue pas. Elle se ne retrouve pas en eux comme elle se retrouve en nous.
Non, non, elle les interprète.
Elle les entend dans sa tête.
Voilà, elle n'est pas, elle les interprète. Marie les interprète, bien sûr.
C'est comme une espèce d'obsession qu'elle entend, comme une chose qui est vraiment la poursuit. Enfin, elle en parle d'ailleurs dans le texte.
Oui, parce que les mots sont des poignards, là, les mots de la
Marie
sont
exactement.
Des poignards, puisqu'elle lui rajoute la culpabilité d'avoir osé aimer un blanc.
Oui.
Elle lui rajoute encore une couche, quoi. C'est terrible.
Exactement.
Alors, ce qu'on n'a pas écouté non plus, c'est les morceaux de musique créés précisément pour la pièce. Ceux de Renaud, donc on va en écouter un là tout de suite. Ça, ils adviennent en fait pendant le déroulement de sur une certaine émotion, sur un certain jeu de la comédienne. Il y a derrière ces morceaux à la guitare qui sont expressément pour le spectacle.
Oui, et d'une façon plus précise, ils adviennent à partir du moment où le personnage d'Ulrika a pris d'une certaine façon le pouvoir sur la scène, où les feuilles contemporaines ont plus ou moins disparu et Ulrika retrouve le livre, enfin, ou l'interprète retrouve le livre d'Ulrika, et il y a une sorte de traversée comme ça qui se fait, et au moment où elle redevient vraiment Ulrika, la musique intervient.
D'accord, c'est à ce moment-là. Oui, j'avais pas fait la nuance, la précision. Merci de la précision. On va en écouter un, alors deux morceaux donc. Voilà, vous êtes toujours sur IDFM.98 et toujours avec Elisabeth Tamaris, avec Alain Fichou. Et donc, nous parlons d'Ulrika, interprétée par Marie Plateau au théâtre Darius Milhaud, dans le 19e, tous les mardis à 19h. Bon, attention, mardi prochain, c'est la grève, le 7. Donc, ceux du 19e, n'hésitez pas à venir en patinette, en vélo, en vélib.
Ouais, ouais, ça va le faire quand même, mardi.
On va jouer, et venez, il y aura la pièce, un des rares théâtres qui va jouer quand même. Et autrement, eh bien, le 14, le 21, le 28, et puis il y a également 4 dates en avril, mais ça en fait plus
jusqu'au
beaucoup.
Jusqu'au 25 avril.
25 avril inclus, voilà, la dernière.
Il faut dire qu'on n'a pas eu de chance avec les grèves, puisque c'était à chaque fois un
le
mardi.
Le 1, le 7.
Voilà, mais on va tenir même mardi prochain, alors que la grève sera peut-être plus dure.
Voilà, alors venez encourager, parce que la comédienne,
oui,
de toute façon...
puis découvrir un très beau texte.
Voilà.
Je pense qu'Elisabeth voulait parler aussi de l'écriture de Claire de Duras.
Oui. Oui, parce que c'est une écriture, en fait, qui comment dire...
C'est très...
classique, c'est une écriture parfaite.
C'est très Racine, très. Il y a des. Voilà, il y a des accents.
Elle écrit comme c'est écrit comme la princesse de Clèves ou comme du Racine. Enfin, voilà. C'est une pureté d'écriture et d'analyse en même temps. Et c'est construit, c'est court. C'est un roman très court. Ah oui, c'est une longue nouvelle, disons.
Trentaine de pages.
Mais totalement épuré. Et il y a quelques moments où elle raconte les événements traumatiques. En fait, il y a plusieurs événements traumatiques. Et le reste du temps où elle raconte ce qui s'est passé, comment ça se passait, et où elle analyse au fur et à mesure.
Oui, voilà. c'est un texte qui, pour autant, n'est pas indigeste, quoi. Voilà.
Pas du tout. Non,
il y a des moments chez Racine.
C'est très simple, très clair.
Voilà, très simple.
Voilà, mais ça fait partie, Ourika, de tous ces livres qui sont jusque-là tout à fait méconnu. Alors, on commence à apercevoir Claire de Duras en faire la lecture, mais jusque-là, c'était vraiment très confidentiel.
C'était reparti.
Il y a eu cette période, moi, quand je l'ai découvert, où tout d'un coup, il y a Marc Fumaroli qui a écrit une introduction à une édition. Mais c'est comme une sorte de secret, comme un bijou secret que certaines personnes connaissent et d'autres absolument pas, quel que soit leur niveau de culture, ça n'a rien à voir. C'est très étrange. Et l'autre jour, quand on était au café de Paris, au café Bavard, j'ai croisé une dame avec qui j'ai parlé et qui m'a dit, mais moi je connais très bien Ourika parce que je travaillais, à l'époque j'avais des amis qui travaillaient aux éditions des femmes. Et donc, parce qu'il y a aussi un côté féministe dans l'histoire. Parce que les hommes, on peut le dire, ne sont pas présentés, Charles en question, il n'est pas présenté comme un personnage
non. Il est un peu louette.
extrêmement courageux, lucide. Il est très content de lui, en fait.
Oui, voilà. Puis il est heureux.
Il est très inconscient.
Voilà.
Le seul qui a vraiment de la valeur, c'est le médecin.
Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Il nous reste plus que 5-6 minutes. Donc, est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on n'a pas dites? Moi, j'étais en train, justement, de regarder le livre et pour montrer à quel point l'écriture est simple pour dire des choses importantes. Quand, justement, elle a cette montée d'envie et de tristesse, elle écrit, Madame de Duras, et dans la bouche d'Ourika, j'étais injuste pour Madame de B. Elle m'aimait, elle me l'avait assez prouvé. Mais elle avait des intérêts qui passaient bien avant moi. Je n'enviais pas sa tendresse à son petit-fils, surtout à Charles, mais j'aurais voulu pouvoir dire, comme eux, ma mère. Les liens de famille, surtout, me faisaient faire des retours bien douloureux sur moi-même, moi qui jamais ne devais être la sœur, la femme, la mère de personne. C'est très simple, alors qu'elle dit un truc gravissime, quoi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire pour que vous vous ruiez sur ce théâtre Darius Milhaud?
On parlait du livre, en tout cas aujourd'hui, le livre Ourika, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies.
Oui, exactement.
Et,
ah oui.
Et pour reprendre ce que tu dis, bien entendu, on invite tous les auditeurs à venir voir la pièce, qui est magnifique. Très belle pièce, chaque mardi, comme tu l'as précisé, et puis donc faire connaissance avec ce très beau texte.
Voilà, avec le texte, avec Ourika, avec Marie Plateau, avec ce théâtre Darius Milhaud, il y a une soixantaine de places, il est intimiste à souhait pour porter ce texte. Et peut-être on va laisser le dernier mot à Elisabeth, et si on a le temps, on met un petit coup de Amel Bent, Ma philosophie, qui est la version moderne de la chanson de Nina Simone, en quelque sorte. À toi, chère Elisabeth.
Oui, alors je voudrais dire que, en ce qui concerne le livre, comme la nouvelle édition va paraître incessamment, je pense que c'est bien de faire honneur à la nouvelle édition, d'autant plus qu'elle est menée par Marie-Bénédicte Dithelm, qui nous a beaucoup soutenus, qui est venue voir le spectacle et qui a été très très enthousiaste et qui nous a beaucoup soutenus. Donc je pense que on peut lui rendre hommage.
Très grande spécialiste d'Ourika.
Oui, ce serait bien que la nouvelle édition en folio soit...
Oui, puis je crois
distribuer et rendre enfin enfin la notoriété à ce texte de Madame de Duras. Et dans ce livre, d'ailleurs, il y a ces trois romans. En fait.
Voilà.
Et puis, l'autre chose sur laquelle je voudrais peut-être revenir,
oui.
C'est l'évolution du travail qu'on a fait. Parce qu'on a commencé par une lecture, ensuite on a fait une mise en scène au Théâtre de Nesle où on restait complètement dans la fiction, mm-hmm. dans l'époque.
D'accord, oui, c'était.
C'est-à-dire
que...
qu'il n'y avait D'accord. absolument pas de signe.
Moderne.
De la modernité.
Mm-hmm.
Bon. Et que maintenant, en fait, ce qui se joue, c'est la rencontre entre une comédienne et pourquoi pas aussi une metteuse en scène.
D'aujourd'hui,
avec. Un texte magnifique de la littérature et un texte qui nous parle encore aussi fortement aujourd'hui. Donc, c'est ça qui, quelquefois, peut dérouter les gens de voir quelqu'un arriver avec un costume et un imperméable par-dessus. Mais en fait, c'est ça le sens. Comment on peut se projeter à travers la lecture? Comment on entre dans la littérature, en fait, pour la transcender sur scène et faire advenir et redonner vie, en fait, parce que c'est ça, moi c'est ça qui m'a touchée depuis le départ, cette petite Ourika réelle qui est morte dans ces conditions atroces et tant d'autres avec elle, encore tous les jours dans la Méditerranée.
Hein. Mm-hmm.
C'est une façon aussi de dire, pour nous, ils vivent encore.
Voilà.
Avec nos moyens, avec ce qu'on sait un petit peu faire, ce qu'on essaie de savoir faire, on leur redonne la vie.
Ourika, elle rend hommage à tout ça, et grâce à toi et à Marie. Moi, je voulais vous féliciter toutes les deux, et chères auditrices et auditeurs, n'hésitez pas, franchement, vous aurez un moment dont vous vous souviendrez. On va vous dire bonsoir, puisque le temps, hélas, est imparti. Donc, bonsoir Alain, bonsoir Elisabeth.
Bonsoir.
Chers auditeurs, on vous dit bonsoir aussi, à bientôt au théâtre, tous les mardis, donc même le 7 avec cette grève infernale. Et vous verrez que Ourika vous ravira le cœur comme elle nous l'a ravi, c'est-à-dire là quand même embarqué. Bonsoir, et on va peut-être écouter Amel Bent si on a le temps de mettre quelques notes.
Être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le poing levé, lever la tête, bomber le torse. Sans cesse redoubler d'efforts, la vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi, malgré nos peines, nos différences. Toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer le cœur. Vie d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé.